Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag.
Portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Loz Actuali avec autour de la table Léa, bonjour.
Salut.
Bonjour Eric.
Oui, bonjour les gens.
Emilien nous a quittés, hein, il est parti vers de nouvelles aventures. Voilà. Et donc voilà, moi je reviens, j'étais pas là la dernière fois. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Toussaint de EORA, société qui s'occupe d'ingénierie du sport. Hein, il nous en parlera tout à l'heure. Et on va parler de la Tarn Water Race. Bonjour.
Bonjour.
Au programme aujourd'hui, donc, voilà, cette Tarn Water Race, et puis, on va évidemment, comme d'habitude, de faire connaissance avec Pierre Toussaint. Il y aura de la musique, il y aura des chroniques avec Eric, tout d'abord.
Oui, moi, j'ai piqué un sujet à l'air.
D'accord.
De spécisme.
Léa, tu as piqué un sujet
j'ai
de...
J'ai piqué les enfants, voilà.
Très bien, et puis bien sûr le portrait chinois, la revue de presse, voilà le programme de cette émission.
Loz Actuali.
Alors, Pierre Toussaint, dites-nous tout, qui êtes-vous qu'est-ce que cette entreprise EORA ?
Alors, qui je suis ? Donc, Pierre Toussaint, je suis un Lozérien de 38 ans qui habite la Canourgue, un passionné de sport et de nature, peut-être avant tout, et qui, il y a maintenant 8 ans, a créé une entreprise qui s'appelle EORA, qui est spécialisée dans le sport. Alors, avec une spécificité, on va dire, sport de pleine nature, et qui s'amuse, autant qu'il ne travaille, à organiser des événements sportifs de pleine nature, alors ici, dans la région Occitanie, mais aussi en France et à l'étranger. Donc EORA est une entreprise qui essaie de valoriser le territoire à travers les activités de pleine nature. C'est une sorte d'outil touristique aussi pour les territoires. Et je m'amuse à organiser notamment cette Tarn Water Race qui aura lieu en Lozère et à Véron dans un peu moins de semaines maintenant.
Alors, quand on écoute ce que vous nous dites, c'est essentiellement sur de l'événementiel, là, c'est ce travail d'ingénierie que vous apportez au travers de votre entreprise ?
Alors, plusieurs spécificités. Il y a évidemment l'étude. Hein, tout événement et puis toute action au départ nécessite une phase d'étude. Il y a aussi de la formation sur l'éco-conception d'événements. Mais c'est vrai que l'événementiel est le gros aujourd'hui de mon activité. Les événements sont des super vitrines pour les territoires. Il y a une belle demande. On le voit, hein, partout dans le pays, ça se multiplie. Il y a une sorte de volonté de la part des pratiquants, hein, de retourner dans la nature. C'est un besoin naturel, hein, si on peut dire, d'aller s'amuser un peu dans les montagnes, sur l'eau, etc. Donc c'est en effet le gros de mon activité.
Cette année, par exemple, vous avez participé à quels événements ?
Alors le premier de l'année, c'était le Nîmes Urban Trail. Donc là, on fait découvrir les monuments nîmois à travers une manifestation où on a accueilli à peu près 6000 personnes. C'est une sorte de journée du patrimoine à travers un événement sportif. On a eu le Trail des Avettes dans le Gard, donc à Méjeanne-le-Clap, si vous connaissez. Il y a tout un réseau d'avennes, de grottes. Et l'idée, c'était de leur faire découvrir un peu toutes ces richesses du territoire. Donc là, il y avait 2000 participants qui couraient et qui passaient dans des avennes et des grottes. La Tawara, c'est la troisième. Et puis, le reste de l'année, ça va être l'Aquaterra, un trail et swimrun en Corrèze, autour du lac de Bord-les-Orgues. On va avoir également l'Hiverna Trail près de Nîmes, le Béziers Urban Trail, et j'en passe, et d'autres où je suis prestataire. Voilà, je suis organisateur, mais aussi prestataire pour d'autres organisateurs.
Donc vous bougez quand même pas mal.
Oui, ça m'arrive.
Quand on dit activité de pleine nature, donc là on a parlé course, run, trail. Qu'est-ce qu'il y a comme pratique derrière toutes ces activités de pleine nature ? peut-être pour nos auditeurs qui connaissent un peu moins ce domaine, comment vous pourriez le définir un petit peu ?
Oui, tout à fait. Alors, le trail, c'est un mot anglais qui signifie chemin, sentier. Et donc, l'idée, c'est de courir en nature sur des chemins et des sentiers, ne pas courir sur la route, comme ça a été la tradition pendant longtemps, notamment les années 90, avec des courses dans toutes les villes, tous les villages, où on restait globalement sur la route. C'est des courses qui marchent encore très bien. On en a une ici, qui est Marvejols Mende, que tout le monde connaît, et que ça fonctionne. Mais on a cette pratique aussi de la nature qui s'est beaucoup développée fin des années 90, début des années 2000, avec des manifestations pionnières comme les Templiers, que vous connaissez sans doute aussi, qui cartonnent dans la région, qui est à cheval aussi sur l'Aveyron et la Lozère. Et donc le trail, c'est cette pratique d'aller dans la nature, courir sur les sentiers. Il y a une sorte de liberté à le faire et de retour vraiment aux sources qu'est l'humain.
Et donc pourquoi partir sur des urban trails ?
Alors c'est vrai qu'on court en effet en milieu urbain à la base, mais on va chercher les coins de verdure présents aussi dans les grandes cités. Donc par le Nîmes Urban Trail, par exemple, on va chercher les grands parcs qui sont derrière. Des coins de garrigue, et puis on essaie de faire sortir les gens un petit peu aussi du milieu urbain. Mais c'est une très bonne question, en effet. C'est vrai que on sort, on va dire, des routes, mais on va chercher aussi les petits escaliers, les petits chemins qui passent entre les immeubles, ce qui rentre du coup dans le terme trail.
Vous sortez des sentiers battus, quoi.
Exactement.
Et alors, en dehors de la partie plutôt course, on va retrouver aussi des activités aquatiques, des activités de grimpe, de spéléo, enfin, vous parliez des avennes tout à l'heure.
Alors partout, on peut faire de la compétition. Mmh. En spéléologie, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut, notamment dans le cadre d'un raid qui s'est organisé 6 ans à la Malène, Tarn Canyon Raid, cumuler les différentes disciplines sportives, les unes derrière les autres, en mettant du canoë, du VTT, du saut élastique. On a fait sauter les gens dans les gorges du Tarn, et tout ça dans le cadre de manifestations. Donc la Tarn Water Race s'inscrit aussi dans ces nouvelles disciplines qu'on peut pratiquer en nature. Donc le canoë-kayak est bien connu, évidemment, depuis longtemps. Mais le stand-up paddle en rivière, c'est assez nouveau. C'est un sport de niche, mais qui est en pleine expansion. On en voit maintenant dans les grands médias. Il y a toujours un stand-up paddle qui apparaît à la télé, dans des journaux, sur des publicités. Et c'est né en mer. Ça s'est ensuite développé beaucoup en lac. Et aujourd'hui, ça se développe en rivière. Ça se démocratise. Et on a ici une rivière qui est fabuleuse, le Tarn, qui nous permet de pratiquer en toute sécurité.
Bon, je ne vois pas très bien comment on reste debout, mais...
Il faut venir essayer.
Sur la rivière, ouais.
On peut vous montrer.
On y reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Peut-être pour continuer un peu à vous connaître, dans ces activités, cette préparation d'événements sportifs, finalement, quelles compétences vous mettez en pratique ? C'est votre expérience de sportif et de pratiquant des différentes activités. Qu'est-ce qu'il faut pour comme compétence dans quelqu'un comme vous pour organiser toutes ces manifestations ?
Alors, je pense que la compétence de base, entre guillemets, c'est la passion pour les sports. Déjà, faut être vraiment motivé par cette pratique, pour en faire son métier en tout cas. Et je souhaite à tout le monde de faire un jour un métier passion, comme je peux le faire aujourd'hui. Après, sur un côté plus technique, on va dire qu'il faut avoir des compétences en ingénierie de projet, gestion de projet, ça c'est fondamental. Et puis être pratiquant aussi, évidemment. Quand on envoie des gens dans la nature, il faut avoir testé avant, évidemment, toutes les difficultés que peuvent rencontrer les participants ensuite. Donc c'est passion, ingénierie et pratique sportive, en effet. Mais à la base, moi, je suis historien. J'ai aucun rapport de formation avec le sport. J'ai une formation en conservation du patrimoine en complément. Et c'est finalement cette touche patrimoine qui m'a amené vers la conception d'événements qui allaient valoriser eux aussi le patrimoine.
Mmh. Oui, donc au final, c'est quand même très multicarte. J'imagine qu'il faut aussi un peu d'environnement, parce que y a des questions environnementales. Des questions techniques aussi, logistiques, pour faire que tout fonctionne bien. On va forcément en parler un petit peu avec l'enchaînement des activités. J'imagine qu'il y a un peu d'organisation à avoir sur, sur la Tarn Water Race, dont on parlera dans quelques instants, tout de suite.
Quand vous préparez une compétition comme ça, d'abord pour choisir un parcours, vous essayez d'abord de vous faire plaisir à vous ou vous imaginez forcément tout de suite pour ceux qui vont faire l'épreuve?
Souvent, c'est en allant sur un territoire où je prends en effet du plaisir. Je me dis, ah tiens, ici, ça pourrait valoir le coup qu'on y organise quelque chose, qu'on le valorise et qu'on le fasse découvrir. Et après, en effet, il peut y avoir des contraintes environnementales qui vont venir en opposition, et très justement, hein, parfois. Donc, c'est des projets qui peuvent être mis de côté. Mais c'est donc un consensus à un moment donné qui fait qu'on peut organiser quelque chose à un endroit précis. Alors, il y a une qualité paysagère, il y a un contexte politique favorable, un contexte environnemental favorable, un contexte associatif favorable, qui fait qu'on peut mettre en place un événement qui fonctionne.
Et puis après, il y a aussi toute une démarche aussi de commercialisation, de promotion de ces événements.
Il faut faire venir le monde, en effet. Il y a des événements qui tournent bien aujourd'hui avec 100 participants. Et puis on peut monter à plusieurs milliers, comme certains fonctionnent bien dans la région aujourd'hui.
Bah très bien, on rentrera tout à l'heure un petit peu plus dans le détail de cette Tarn Water Race. Et ça permettra un petit peu d'illustrer aussi ce qu'on vient de se dire. Et tout de suite, on va écouter la chronique d'Eric. C'est juste après ça.
Loz Actuali.
Donc Eric, c'est à toi.
Oui. Voilà. Quand j'ai vu que le parti animaliste avait obtenu 2,2% des suffrages aux élections européennes, j'avoue que je me suis posé quelques questions existentielles. Cela m'a fait repenser à cette histoire d'une célèbre chroniqueuse radio nous faisant verser une petite larme quand elle nous a raconté sa vie si difficile avec son chat. Oh, c'est triste. Bon, j'ai voulu ainsi en savoir un peu plus sur cette nouvelle tendance concernant le spécisme ou l'antispécisme. Déjà, rien qu'en évoquant le nom. Bon, on sait qu'on ne va pas faire dans la facilité de compréhension. Pour ne pas ranger les choses, c'est un mot d'origine anglaise, comme je les affectionne, tout pour plaire. Alors, cette notion rejoindrait ainsi le fascisme, le racisme, le sexisme, le crétinisme, le ratbolisme, le gilet-jaunisme et autres qualificatifs peu rulisants en isme. Alors, mais si certains de ces exemples ont de bonnes raisons d'être classés parmi les attitudes détestables, j'ai plus de peine avec la critique sous-entendue dans le terme de spécisme. Car je crois bien que malgré tout mon amour pour la nature, je suis moi-même un peu spéciste. Enfin, si j'en ai bien compris le sens. Et en toute humanité, bien entendu. Alors, dans son acception actuelle, on associe classiquement l'antispécisme à deux aspects principaux. Celui de l'égalité de considération morale entre hommes et animaux et celui plus récent et plus extrême de l'égalité des droits. C'est même devenu, on le voit avec ce vote du parti animaliste, une des nouvelles injonctions morales. Ne pas créer de hiérarchie au sein du règne animal. Être antispéciste en accordant le même respect au lombric, à la baleine ou à l'humain. Après tout, une vie est une vie. Bon, qui sont ainsi ces animalo-sceptiques qui refusent ces droits aux animaux? Mais vraiment, et si pour protéger les animaux, il fallait plutôt embrasser en partie la pensée spéciste? La question peut se poser. Certains juristes ont alerté sur l'urgente nécessité de donner aux animaux le statut de personne physique non humaine, pour in fine leur reconnaître des droits. Comme le droit d'un pauvre petit chien de piquer la vedette à Léa quand elle va avoir des amis pour le week-end à Toulouse. C'est que le changement de statut des animaux adopté dans le droit français en 2015, de bien meuble à être vivant, doué de sensibilité, n'a pas vraiment changé les choses. Ils sont toujours soumis au régime des biens. Mais peut-on offrir la même protection à, disons, un chat et une saloperie de tic? Bon, l'un a une intelligence reconnue quand l'autre porte des maladies. D'ailleurs, c'est une piste. On pourrait peut-être, je dis bien peut-être, que tous les moustiques et cervelets ne me tombent pas dessus à la sortie du studio. S'appuyer sur le degré de conscience des animaux pour les classer. Les neurosciences accordent une pensée consciente aux mammifères, aux oiseaux et aux pieuvres. Sauf que regardez par exemple, les chats. Pas ceux qu'on voit dans des vidéos trop choupis, si mignons et si malins. Non, là je vous parle des chats errants en Australie. Eh bien, ils tuent 1 million de reptiles par jour. Donc 365 millions par an. Je sais, mon niveau en maths est impressionnant. Ce qui fait que 11 espèces de serpents y sont actuellement menacées d'extinction. Faut-il laisser cette hécatombe se produire sous prétexte que les génocidaires sont plus conscients que leurs victimes? Alors déjà, vouloir associer le mot génocidaire et conscience dans la même phrase, c'est aussi difficile à avaler qu'une couleuvre. Endémique ou envahissant, sauvage ou domestique, protégé ou nuisible, un futur droit de l'animal ne pourra fermer les yeux sur ces réalités. Il ne pourra pas non plus faire l'économie de la différence entre les territoires et devra certainement hiérarchiser les animaux, pas par intelligence ou pouvoir d'attendrissement, mais au regard de l'écosystème entier. Après, si on y réfléchit bien, les animaux ont un lien très direct avec la vie, la survie et la mort. Dans la nature, ils y sont constamment confrontés. Les règles sont claires, il y a des prédateurs et il y a les proies. Ce n'est ni un droit ni un devoir, c'est une réalité pour l'un comme pour l'autre. Pour un carnivore, manger une proie est dans l'ordre des choses. L'animal ne va pas tuer plus que ce dont il a besoin pour se nourrir. Au sein d'une même espèce, on ne se mange pas, mais on se combat, souvent pour des raisons de territoire, parfois aussi jusqu'à la mort. Les fourmis ou même certaines abeilles, si importantes pour la biodiversité, peuvent ainsi se mener de véritables guerres entre colonies ou espèces proches. On peut ainsi dire que les animaux sont intimement conscients de leur espèce et sont spécistes, à leur façon, pour leur survie même. Donc pour le bien-être animal, soyons pragmatiques, soyons spécistes, raisonnés.
Merci Eric.
On pour... se souvient que Florian Philippot a fait moins que les chiens et les chiens.
Merci pour ce rappel des résultats des élections européennes. Mais maintenant, c'est le moment de la première coupure musicale avec le choix de notre invité qui a choisi les Foo Fighters.
Exactement.
Pourquoi ?
Oh, c'est un plaisir de pouvoir écouter à la radio les Foo Fighters. C'est sans doute un groupe qu'on n'entend pas assez souvent sur d'autres ondes.
Allez, ben on les écoute sur 48 FM.
Actuali.
Deuxième partie de notre émission Lose Actuali sur 48FM. Toujours avec Pierre Toussaint de Eora, on va parler de la Tarn Water Race, mais pendant la pause musicale, une question que nous aurions dû poser dans la première partie est arrivée, et c'est Eric qui l'a posée, donc je vais laisser Eric la reposer à notre invité.
Non, c'était pour savoir si Eora avait une signification.
Oui, en effet, donc Eora a une signification, ça veut dire aborigène en langue aborigène, c'est le peuple aborigène qui se donne ce nom-là. Tout simplement parce que les aborigènes sont créateurs d'un grand nombre de sports dans leur culture et sont très respectueux de l'environnement. Donc, à travers ces deux aspects, voilà, je trouvais que c'était une bonne idée d'appeler son entreprise Eora parce que j'essaye d'avoir les mêmes valeurs.
Bien, bah maintenant, voilà, avec cette introduction donnée, on va parler de cette Tarn Water Race. Alors, le petit nom, c'est Tawara, c'est ça ?
Exactement, c'est les deux premières lettres de chaque mot.
Voilà. Le 16 juin 2019, donc, entre la Lozère et l'Aveyron, entre Saint-Enimier et donc Compreignac. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer donc, aux compétiteurs de cette course ?
Alors, tout simplement, on va leur proposer la descente du Tarn en canoë, en kayak ou en stand-up paddle. Ils ont la possibilité de faire donc, la longue distance entre Saint-Enimie et Prégnac, 71 km, ou entre Saint-Enimie et le Pas-de-Souci, là, 23 km. Donc, ils ont la possibilité de le faire en individuel, la possibilité de le faire en équipe, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble du début à la fin, ou en équipe relais. Où là, ils peuvent alterner les concurrents en fonction des endroits autorisés pour passer les relais, avec des distances plus ou moins longues entre chaque relais pour que les moins bons, les moins spécialistes puissent aussi prendre du plaisir et puis les meilleurs puissent s'éclater.
On n'a pas besoin d'être professionnel.
Absolument pas. On peut être en kayak, en tout cas débutant. Stand-up paddle, ça nécessite quand même d'avoir un petit peu pratiqué avant. L'idée, c'est pas d'arriver sur place le matin même et de découvrir le stand-up paddle parce que
oui, là, fait 71 km.
On serait vite en difficulté. en kayak, c'est quand même un peu plus simple techniquement. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un petit peu pratiqué avant. Et donc, j'ai oublié la question.
C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde, tout à fait. Dans la mesure où on a déjà un petit peu pratiqué.
Un kayak
Non, pas forcément. Lors de l'inscription, on a la possibilité aussi de louer.
Vous en avez combien, du coup, à la location ?
Alors, on a des partenaires loueurs de canoë-kayak sur l'ensemble des gorges, entre Saint-Enimie et Compreignac. Et donc, ici, dans la région, on est bien fournis
oui,
en canoë.
Oui, oui, oui. Alors, pour tout le monde.
Et alors, le principe, c'est c'est quand même grande distance.
Une épreuve d'endurance. Voilà. Comme il en existe encore assez peu en France, même en Europe. Mais petit à petit, on voit éclore des manifestations comme ça. On a des manifestations bien connues dans le paysage français, comme la Dordogne intégrale, qui a été un peu pionnière dans ce domaine-là. Donc c'était la descente de la Dordogne, qui cette année était longue de 350 km quand même. C'est-à-dire que certains concurrents font des très très longues distances, hein, c'est sur plusieurs jours, comme on peut avoir aussi en trail et ultra trail, on en parlait tout à l'heure. Ça se duplique maintenant aussi sur l'eau. Et puis on a d'autres manifestations, comme le marathon international des Gorges de l'Ardèche, qui en est à je ne sais plus combien d'éditions, une vingtaine je pense déjà, voire plus, même je dis peut-être une bêtise. C'est des événements historiques, et puis nous on est les petits derniers à être arrivés, ça fait 3 ans qu'on est là. On a créé ensemble donc avec la Dordogne et l'Ardèche le challenge des trois rivières en France et on essaie de valoriser ces belles rivières françaises à travers ce challenge de plusieurs manifestations.
Pourquoi ne pas avoir fait toute la longueur du Tarn?
La première édition déjà on faisait qu'entre Saint-Enimie et le Cirque des Baumes, ça faisait à peu près une vingtaine de kilomètres. Et puis ensuite, la deuxième édition, on a poussé jusqu'à Compreignac, 71. On va essayer de confirmer 71. Mais c'est une excellente question parce que les concurrents, déjà, viennent vers moi en me disant « Pierre, ça serait pas mal qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on descende, pourquoi pas, jusqu'à la Garonne. » Donc c'est vrai, ça taraude dans la tête. L'idéal même, ce serait de partir du Mont-Lozère, des sources du Tarn, pour faire vraiment une Tarn intégrale, entre guillemets. Sauf qu'il y a une partie qui n'est pas navigable, déjà tout en haut du Mont-Lozère. Ensuite, jusqu'à grosso modo Florac, c'est assez technique. C'est pas les mêmes bateaux. En stand-up paddle, c'est pas possible. Ensuite, il y a des arrêtés de navigation en amont de Saint-Enimy. Donc à voir. Est-ce que pourquoi pas le faire une partie à pied, une partie à vélo, et puis la fin en objet navigable. Pourquoi pas à l'avenir, hein, peut-être même à court terme. Ça demanderait une étude technique, mais ça peut être un sacré beau défi.
Et alors, la difficulté globale là, de ces 71 km et des 22,9 km entre Saint-Enimy et le Pas de Souci, globalement, il n'y a pas de difficulté majeure. Il y a quand même des endroits où on ne peut pas passer, le Pas de Souci, justement.
Exactement.
Fait une rupture physique.
Exactement, c'est une rupture physique sur le parcours. C'est pour ça aussi qu'on arrête le 23 km à cet endroit-là. 23 km qui s'adresse comme à un public un petit peu plus amateur, on va dire. Mm-hmm. Donc on ne va pas leur faire porter leur canoë, leur kayak ou leur stand-up paddle pour ensuite enchaîner quelques kilomètres de plus. La course s'arrête ici. En revanche, pour le 71 km, en effet, ils sortent de l'eau, ils portent leur matériel sur à peu près 1 km 400 pour se remettre à l'eau un petit peu plus loin et finir la course. En restant quasiment tout le temps dans l'eau, sauf pour passer quelques seuils qu'on a aux vignes, qu'on a à l'eau.
Ouais, quelques retenues sur
quelques retenues sur le Tarn, tout à fait.
Ça se fait en combien de temps en moyenne ce parcours ?
Alors pour les premiers, c'est à peu près 5 heures d'effort. Mm. Puis pour les derniers, on est sur quasiment une douzaine d'heures.
Ah oui, quand même.
Tout à fait. Donc derniers vont finir juste avant la nuit.
Donc finalement, c'est pas si mal parce que ça fait une journée entière. Les gens peuvent venir et repartir presque dans la même journée. Donc,
tout à fait. L'idée, c'est de les faire venir sur un week-end entier. Donc il y a toujours cette optique de développement touristique territorial. Hein. En amont de la manifestation, on a prévu avec le REL et puis le Parc National des Cévennes, dans le cadre de l'ABC de la Malène, une conférence et une randonnée autour de la découverte de la biodiversité des gorges du Tarn.
Sur les castors,
exactement. Donc on les fait venir en amont, déjà, une journée avant. Et puis, ça leur permet aussi de remplir les gîtes, les campings, les hôtels.
Oui, pour aussi de se faire un petit peu de repérage, j'imagine.
Certains vont faire un petit peu de repérage, parce que quand on est passionné, quand on voit la belle rivière turquoise, c'est difficile de ne pas mettre la planche dans l'eau. Donc ils vont y aller aussi. Et puis même, par exemple, notre double tenante du titre, la canadienne Chara Dubo de Toronto, vient carrément une semaine à chaque fois. Voilà. Mmh. Donc c'est de l'hébergement et de la restauration sur un week-end, mais c'est aussi beaucoup plus pour certains qui restent une semaine, voire 10 jours, qui restent en vacances après.
Après, pendant la course, c'est comme sur les courses à pied, il y a des ravitaillements. Comment ça marche ?
Ouais. Oui, complètement. On met des ravitaillements. Donc le premier, c'est au Pas de Souci. Hein, ils sortent de l'eau, ils peuvent grignoter un bout, remplir le camelback qui fait en même temps office de gilet de sauvetage. Et puis ensuite, on en a un donc, à la base de loisirs Saint-Hilarin, à côté de Rivière-sur-Tarn. Un autre à Millau, et puis un à l'arrivée, à Comprignac. Donc en effet, ils se ravitaillent. Alors ils mangent un peu moins que les coureurs à pied. Hein, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être c'est au niveau de la consommation des calories. Donc, mais ça consomme un peu moins, mais ils s'arrêtent très volontiers et ils discutent avec nous sur les ravitaillements. Ils donnent toujours leurs premières impressions, c'est sympa.
Est-ce que vous avez des professionnels sur les 23 km, c'est ça à peu près, qui font vraiment à fond ?
Alors c'est difficile de parler de professionnels. Grosso modo, tout le monde a un métier à côté.
Voilà,
c'est des sportifs. Alors, on l'a dit, hein, des sportifs amateurs, mais il y a aussi des sportifs de très haut niveau. Puisqu'aujourd'hui, au départ, on va avoir une quinzaine de titres de champion du monde en canoë-kayak. Et un athlète olympique aussi qui vient. Et puis en stand-up paddle, donc bon, c'est pas un sport encore qui fait les Jeux Olympiques. Hein. Mais on a des athlètes de très haut niveau, des aventuriers. Parce que, par exemple, on a Ingrid Ulrich, la gardoise, qui rentre du Groenland en stand-up paddle, qui vient de faire la traversée Corse-continent aussi en stand-up paddle. Laurent Nicolardo, qui a fait de même la Véronée il y a 10 jours. Donc ce sont des gens d'un très haut niveau qui vont venir ici dans les gorges du Tarn.
Mais est-ce qu'ils se positionnent plus sur la version longue, du coup, endurance, ou alors ils font des petites courses contre le chrono alors, sur les 20 km?
Bah c'est, ils font la course contre le chrono sur 71 km.
C'est vraiment un autre niveau.
C'est ça.
Bah, c'est sûr que ça fait quand même une vitesse importante pour faire en 5 heures les 71
km. Oui, ça avance.
C'est quand même sacrément...
Et puis, on ne peut pas trop compter sur le courant, sur le terrain. Voilà. À part les petits rapides, il y a beaucoup de plans d'eau qui demandent...
Qui restent modestes, malgré tout, sur, pour la partie que les Lozériens connaissent bien, justement, entre Saint-Enimy, la Malène, le Cercle des Baumes et le Pas de Soucis, il n'y a quand même pas d'énormes rapides et un énorme...
Il ne faut pas trop compter dessus.
Voilà.
J'espère qu'ils profitent du paysage, quand même, du coup, en 5 heures.
Mais... Ah, c'est difficile de louper le paysage... Non, c'est tellement beau, il attire tellement l'œil, et c'est aussi pour ça qu'il y a du monde. Hein. C'est vrai qu'on a un territoire qui est exceptionnel et que les gens sont heureux de découvrir, redécouvrir pour certains. C'est un beau cadeau que la nature nous fait.
Ce que j'avais demandé justement, comment on les fait venir ces personnes qui ont un tel palmarès, c'est qu'il y a des primes à la victoire, il y a des primes au podium. C'est juste pour la beauté de l'épreuve et du paysage et de tout ça. C'est quoi?
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà l'amour de la nature, hein. C'est vrai qu'un beau paysage ça donne envie d'y aller, et puis ensuite il y a le côté compétition, se confronter à d'autres, hein, qui restent malgré tout des amis, hein. Quand on voit l'ambiance qui règne sur ces manifestations, on est là entre potes, on se connaît, on a plaisir à se retrouver avant et après la course, à faire un bout de chemin ensemble, mais il y a un côté compétition, et puis accrocher une course à son palmarès, une course qui a un peu d'aura, qui est sympa, ça, voilà, c'est aussi pour ça qu'on vient. Mais non, il n'y a pas de prime. Ce qu'on gagne, c'est des produits du terroir, c'est un trophée, et puis le plaisir d'avoir participé, et d'en avoir pris plein les yeux.
Il n'y a peut-être pas énormément de courses qui existent non plus en France.
Oui, en effet, pour l'instant ça reste un sport de niche. Il y a plus de courses en mer ou en lac, et en rivière, c'est vrai que c'est encore... C'est encore un peu... c'est un microcosme.
Et vous les avez fait, les 71 km?
Oui.
Combien de temps?
Oh, j'ai mis 12 heures, moi.
Ah ouais. Ah, mais vous avez du repérage en même temps.
Oui, puis avec pique-nique, mais j'étais pas dans un esprit course, mais j'aurais pas fait beaucoup mieux. En fait, moi, je viens d'un sport qui s'appelle la course à pied. Ça se voit pas à la radio, mais j'ai des bras de crevette. Donc, pour ramer avec ça, on rame beaucoup plus.
Combien vous attendez de participants le 16 juin?
Donc on espère multiplier par 3 voire par 4 par rapport à l'an passé, c'est-à-dire faire à peu près 150 participants, et ce qui serait une très belle performance sur ce sport de niche. Et puis à l'avenir peut-être, en France on n'a pas trop d'exemples, mais en Espagne il y a des compétitions à plusieurs centaines voire milliers de participants, mais qui ont plusieurs dizaines d'années de vie. Nous, on est encore des bébés. On
va dire. Et actuellement, vous en avez combien d'inscrits?
120.
Oui, donc
Sachant qu'il reste 2 semaines et que les gens se décident souvent dans la dernière ligne droite, on devrait y arriver.
Pour s'inscrire, il faut quoi? Il faut avoir un certificat médical,
Exactement, un certificat médical de moins d'un an, hein, qui spécifie qu'on est apte à la pratique du kayak, du canoë ou du stand-up paddle en compétition, ça c'est important. Ou une licence sportive canoë-kayak pour les pratiquants de canoë-kayak et de surf. Pour ceux qui pratiquent le stand-up paddle, parce que c'est la Fédération Française de Surf qui chapeaute la discipline stand-up paddle aujourd'hui.
Et les inscriptions, c'est sur le site internet
tarnwaterrace.com.
Voilà, ça, au moins les infos sont données. Combien il y a de personnes qui vont... Parce que l'organisation, c'est vous seul ou déjà il y a des gens avec vous sur la préparation et puis sur l'organisation, la mise en œuvre pendant cette journée du 16 juin, et puis j'imagine les jours autour, avant, après, dites-nous un petit peu.
Alors en amont, c'est vrai que l'essentiel du travail, c'est moi qui le réalise avec une aide de temps en temps de la part d'autres personnes sur des tâches bien précises. Je salue Maëva qui est sous doute écoute et qui travaille sur la communication, puis d'autres sur un peu de logistique, etc. Mais finalement, bon, il y a un gros travail en amont qui est fait, c'est sûr. Mais sans l'aide, le jour J et la semaine de la manifestation de la part d'une trentaine de personnes, la manifestation ne pourrait pas voir le jour. Donc il y a un puzzle. On y met l'essentiel des pièces en amont. Et puis le jour J, chacun vient mettre la sienne pour finir le puzzle de façon à ce qu'on ait une belle œuvre à la fin. Donc, encore une fois, sans ce travail des bénévoles la semaine de la manifestation, je parle des bénévoles, mais aussi des prestataires très compétents qui viennent apporter leur savoir-faire sur les manifestations, on n'arriverait pas à ce beau jouet qu'aujourd'hui la Tarnwater Rise.
Bien, on rappellera l'adresse pour s'inscrire à la fin de l'émission, mais tout de suite, ça va être la chronique de Léa.
Loz Actuali.
Et donc Léa va nous parler d'enfants.
Une fois n'est pas coutume, hein, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui est apparu dans ma vie. Voilà. Moi, je me sens jeune, personnellement, hein, dans la vie de tous les jours. Mais il y a quelques indications qui commencent à montrer que j'avance dans la vie. Voilà, on ne dit pas vieillir, hein, on dit avancer dans la vie, c'est beaucoup plus joli et beaucoup moins stressant. Et une de ces indications, bah, dans la vie d'une femme, en tout cas, c'est les enfants. Ces petites boules d'amour qui galopent à quatre pattes, bavent au menton et qui comprennent un mot sur cinq quand vous leur parlez. Ah mince, attendez, non. Ah non, c'est bon, je croyais en fait que j'étais reparti dans les chiens et les chats, mais c'est bon, ça marche aussi pour les gosses, autant pour moi. Bref, moi je suis sur Facebook, déjà ça en soi c'est un premier coup de vieux, et je découvre de plus en plus de potes qui ont des enfants. Donc c'est compliqué. Alors pas des potes, hein, vous savez, juste ceux qu'on garde pour se rassurer sur notre vie sur Facebook. Bref, plus le temps avance et plus je vois des Kylian, des Matteo et autres Mbappé apparaître sur mon fil d'actualité. Exemple, l'autre soir, je me demandais ce que devenait ma voisine de classe anorexique et peroxydée. Et bah, elle fêtait les 2 ans de Timéo. Et à en juger par la photo, ça fait longtemps qu'elle vomit plus ses gâteaux d'anniversaire. Enfin bref, le prénom Timéo en plus, hein, bon, j'avais l'impression d'aller sur une plateforme de streaming quand j'ai tapé ça sur mon ordi. Évidemment, elle vit dans un pavillon. Alors j'ai rien contre les pavillons, je veux pas faire de mépris de classe, mais... Non, en fait, les pavillons, c'est juste dégueulasse, hein, désolé. J'ai cherché le Golden Retriever, parce qu'il le fallait. 20 ans, un gosse, un pavillon, il y a un Golden Retriever quelque part, grand classique. Après, je me suis souvenu qu'elle était allergique aux poils de chien, et bah, je pense qu'elle doit avoir un hamster caché quelque part, sûrement pour Timéo. Il doit s'appeler Cacahuète, il a 2 ans, il est bohémique. Enfin bon, il n'y a pas que Facebook, hein, y a la vie de tous les jours aussi. Déjà, quand on est petite, les filles, on a le choix entre s'occuper d'un gosse en plastique, alors qu'on est soi-même une enfant, ou discuter avec nos amis du prénom qu'on va donner à notre descendance alors qu'on n'a même pas nos règles. Demande ça à un mec pour voir, il va se mettre à courir avant que t'aies fini de poser la question, et quand il aura disparu au coin de la rue, tu peux être sûr qu'il aura déjà effacé ton numéro. Bref, blague sexe à part, c'est vrai que les enfants, pour les femmes, c'est une grosse pression sociale. Combien de fois vos parents vous ont dit « tu verras quand t'auras des enfants » comme si c'était quelque chose d'inéluctable. Ou alors le fameux « tu me feras des petits-enfants avant que je meure » hein, de papa, là. Est-ce qu'à chaque fois, à chaque mec que je ramenais à la maison, il se faisait un portrait robot de sa future petite fille en se disant « ah non, trop brune, je préfère une petite blonde, c'est plus mignon. » Merde quoi, mon existence résume à payer la maison de retraite, d'accord, mais pas les couches. Ou alors les couches pour la maison de retraite, mais c'est tout. Si ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il se dit que j'essaye de lui faire plaisir, le pauvre. Et ça, c'est comme ça dans le monde entier. Tout le monde pense avoir un droit de regard sur ton vagin, c'est fantastique. Dans certains pays, on a même des primes si on fait des gosses. Imaginez-vous un petit peu le plan de carrière des meufs là-bas. Tu vas faire quoi plus tard? Oh bah des gosses, hein, plein de gosses. Salaire à vie, j'embauche une nounou, pas besoin de m'en occuper, je suis tranquille. Ils auront juste à suivre, vous savez, la ligne des 4 premières césariennes pour ouvrir à chaque fois, c'est pratique. Pardon, je suis un peu hardcore, mais voilà, ça m'a chauffé. En Alabama, le père, t'as une chance sur deux que ce soit aussi un violeur, enfin... Une loi pour responsabiliser les hommes, hein, c'est bien. En plus, c'était sûrement un mec cool qui a senti les aiguilles de l'horloge biologique tourner et qui a juste voulu aider. Sauf que là-bas, c'est plutôt tendance aiguille à tricoter en ce moment. Enfin bref, en ce qui me concerne, je pense avoir... En fait, non, je pense pas avoir d'enfant un jour. Peut-être parce que j'ai juste envie de vivre ma vie en pensant à moi en premier, voilà. Égoïste, hein, quand on est une femme et qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfant, on est égoïste. Et que j'aimerais bien avoir une carrière aussi, hein, parce que quand on est enceinte, on perd son job. Le message dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas plus de honte à avoir un léger surpoids, un pavillon et un Timéo à 20 piges que d'avoir 5 chats à 43 ans et un mec différent tous les soirs à qui les présenter.
Égoïste.
Merci Léa pour ce coup de gueule avec...
En fait, moi, on dira plus chronique, on dira coup de gueule à chaque fois.
Oui, voilà, oui, on peut, voilà. peut dire ça. Voilà. De toute façon, tu prépares la prochaine émission. Ça s'appellera peut-être coup de gueule. On le sait pas. Ta chronique m'a fait penser à une excellente création sonore sur Arte Radio, sur le don d'ovocytes, qui est particulièrement
très bon podcast.
Très très bon podcast à écouter si vous avez un peu de temps à y consacrer. Il y a 5 épisodes d'une vingtaine, 15-20 minutes à chaque fois. C'est très intéressant à écouter aussi, justement, dans cette discussion autour de l'obligation ou pas d'avoir des enfants et du lien qu'on peut y mettre. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Ça m'y a fait penser.
Il y a très peu de gens qui savent d'ailleurs que le don d'ovocytes existe. Hein, ce qui est quand même assez.
Mais n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Arte Radio. Ça sera une nouvelle émission aussi à la rentrée. On vous diffusera des choses qui viennent notamment d'Arte Radio, mais autour de la création sonore avec des sujets un peu différents. Voilà, on vous annonce d'ores et déjà ça sera le jeudi soir, tous les 15 jours. Voilà.
À peu près.
Voilà, si, c'est ça.
Pendant qu'on y est, on est sur Arte, donc j'en profite aussi. Il y a aussi un autre podcast sur la soumission sexuelle et le féminisme qui est génial. Voilà, donc allez-y.
Allez les découvrir, on vous en fera écouter aussi sur les ondes de 48 FM. Mais allez découvrir des choses là-dessus, c'est très sympa. Tout de suite. Et sans transition, le portrait chinois de notre invité.
Loz Actuali.
Alors voilà, vient le moment où en plus là on vous l'a pas imprimé aujourd'hui, parce que les fois d'avant on l'imprimait pour l'invité, mais après il travaillait trop ses réponses d'avance, donc ça marchait mal. Donc un petit portrait chinois pour essayer d'un petit peu plus vous connaître, et puis de continuer à parler de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive dans ces différentes propositions que vous pouvez faire. Et on commence avec l'animal, votre animal préféré.
Oh, si je devais être un animal, ce serait un oiseau, pourquoi pas un aigle qui est un beau symbole de liberté.
Un loisir, alors est-ce que c'est les activités de pleine nature en général ou est-ce qu'il y en a un autre?
Bah, les loisirs, ça évolue un petit peu en fonction de la vie aussi. Aujourd'hui, j'ai une passion pour la science naturelle et puis l'astrophysique. J'adore lire beaucoup de documents à ce sujet.
Un endroit préféré en Lozère?
Un endroit préféré en Lozère. Je crois qu'on est pas mal sur le sommet de la Baouse del Biel, au-dessus de la Sablière.
Pas très loin de...
Dans les gorges du Tarn.
du passage de la Tarn Motor Race. Un endroit préféré dans le monde?
Dans le monde, bah, j'ai eu la chance de voyager un petit peu. Bah, écoutez, je pense qu'en Lozère aussi, on est pas mal. Hein. Je rentre juste de Sicile. J'étais au sommet de l'Etna il y a quelques jours. Et c'est magnifique. Mais on s'est dit qu'on était pas mal aussi chez nous. Mais au sommet de l'Etna, on était bien. Alors pourquoi pas le sommet de l'Etna?
Une drogue favorite?
La musique.
Une citation?
Une citation.
Bon, vous pouvez passer, hein, vous avez le droit.
On a le droit. Ouais, ça aurait demandé un petit peu de préparation.
Ouais, mais c'est ça. C'est soit on prépare et bon voilà. Qualité, défaut.
Qualité, je pense qu'il y a de la générosité et puis défaut, peut-être des fois un petit peu un seul caractère.
Un plat préféré?
Un bon plat de pâtes, mais bien assaisonné.
Un verbe ou un mot?
Un verbe ou un mot? Amour. Mm-hmm.
Un héros ou une héroïne de fiction?
De fiction.
Pas forcément de fiction.
Ou pas de fiction.
Allez.
Pas forcément.
Prof d'histoire, pas de fiction.
Nelson Mandela.
Ouais. Un rêve?
Un rêve, ben on va peut-être retomber un peu sur les thématiques de nos chroniqueurs, que l'état environnemental de la planète s'améliore rapidement.
Et pas d'enfants.
Alors, c'est une question sur laquelle on peut rebondir. Hein, est-ce que d'avoir des enfants a un impact sur l'environnement? n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'aussi ne pas en avoir quand on a conscience des problèmes environnementaux n'est pas aussi un problème ? Parce qu'on doit pouvoir, quand on a cette conscience-là, transmettre aussi certaines valeurs à la descendance.
L'adoption.
L'adoption est aussi une solution, en effet.
Bien, merci pour ce débat. C'est le moment de la deuxième coupure musicale avec là aussi le choix de notre invité. Et je vous laisse nous dire.
Donc, c'est un morceau du groupe français Gojira qui est le groupe numéro 1 en France, connu mondialement et qui a fait avec ce titre. La une des grands médias français, pour une fois, et puis qui a été nommée donc, au Grammy Awards il y a un peu plus d'un an.
Eh bien, on écoute. Alors, un petit bug, on va relancer tout ça et on va commencer avec tout de suite la rubrique hashtag. Je pense que ça sera plus simple.
Et on réécoute.
voilà. Et on écoutera.
C'est pas de ma faute, c'est un problème technique. Ouais,
Hey, justement, Léa était en train de nous dire qu'elle n'était pas fan de métal, comme par hasard.
On écoutera la chanson.
On va pas qu'il y
ait deux, trois petits boutons avant.
On la remettra à la fin de l'émission. On va tout de suite enchaîner sur la troisième partie avec la rubrique hashtag.
Loz Actuali.
Voilà une rubrique hashtag un peu rapide aujourd'hui avec pour les hashtags nationaux et internationaux, on peut citer tous les hashtags autour du déplacement de Trump au Royaume-Uni, avec évidemment, vous avez entendu parler dans les médias, notamment ce matin, de la façon dont il avait traité Theresa May en amont de sa venue. Donc,
c'est le maire de Londres, pas Theresa May.
Ah oui, pardon.
Ouais, le maire de Londres.
Oui, qui soutenait le maire de Londres, mais je crois qu'il a aussi, dit sur Theresa May qu'elle était nulle et...
Ah oui,
et...
peut-être qu'il a fait une pierre de
coups. Oui, enfin bon, voilà. Et donc, je pense que les échanges vont être sympas aujourd'hui. Voilà, hier, il était avec la reine Elisabeth, c'était sans doute plus, plus calme, mais voilà, en tous les cas, une visite d'État de Trump qui fait beaucoup parler, Et puis, plutôt...
Je crois qu'il y a un étudiant qui aussi a fait dans son jardin et, qui a dessiné une énorme œuvre d'art. Ouais.
D'accord. Et puis, il y a le maire de Londres qui a autorisé plein de manifestations pour
un petit peu s'opposer au... Je pense qu'en fait, il essaye de pousser au maximum pour voir jusqu'où on pouvait accepter. Jusqu'où on pouvait accepter. Il est exceptionnel. Voilà. Il dépasse tout ce que je pouvais imaginer d'un homme d'État.
Voilà. Bon, toujours dans les hashtags, on retrouve aussi pour la Lozère cette fois-ci pas mal d'infos, pas mal de relances autour de la préparation du salon 48.digital, donc 48FM et partenaire, et notamment du Lozère Dating. autour des métiers du numérique qui aura lieu à cette occasion. Donc il y a pas mal d'infos qui commencent à être largement diffusées sur la toile. Donc c'est l'occasion, si ça vous intéresse aussi, d'aller sur ces liens et éventuellement de vous inscrire si vous avez envie de développer des activités là-dedans, si vous recherchez un emploi dans ces métiers. Et puis ce salon 48 Digital, il y aura plein de choses. Bon, on entendra évidemment dans les infos de Léa aussi, et puis il y aura des émissions sur place à l'occasion de ce salon. Mais pendant 21 et 22 juin, ça sera l'occasion de découvrir un petit peu toutes les applications du numérique, les grands enjeux aussi autour de tout ça. Donc notez-le d'ores et déjà dans vos agendas. Tout de suite, la revue de presse.
Loz Actuali.
Et Eric, on commence avec un hommage.
Oui, samedi 1er juin, on apprenait la disparition à 88 ans de Michel Serres. Alors, cet homme à l'œil malicieux, c'est un nom qui évoque la montagne, un accent gascon, humaniste, académicien, espiègle, ouvert à tous, érudit, voyageur, penseur des sciences, de la nature, de la violence et des nouvelles technologies. Lecture de Jules Verne, auteur insatiable et infatigable, enfant de la guerre qui avait foi en l'avenir. On a beaucoup insisté sur son optimisme, mais même si lui, il parlait plutôt d'un optimisme de construction. Alors je vous invite à le lire et à l'écouter. Et en temps, je vous lis deux citations. Donc, nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle de l'histoire. On a vécu 70 ans de paix, l'espérance de vie a crû jusqu'à 80 ans, la population paysanne est passée de 75 à 2%. Par conséquent, toutes les institutions que nous avons créées l'ont été à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et cette autre citation, c'est tellement rare, c'est tellement improbable, c'est tellement miraculeux que c'est peut-être ça la civilisation et la culture, rencontrer quelqu'un qui écoute. Donc quoi qu'il en soit, si je devais ajouter quelque chose, c'est qu'il était un des rares philosophes à parler d'aujourd'hui avec lucidité et distance, mais sans inquiétude ni angoisse, et sans sous-entendre que c'était mieux avant. Or, on a souvent tendance à penser qu'il n'y a qu'une alternative, critiquer le présent en souvenir d'un âge d'or ou accepter le présent et dire oui à tout naïvement. Avec Michel Serres, on aura compris qu'il y avait une troisième voie, une autre possibilité. Essayons de la pratiquer plus souvent.
Très bien, merci Eric. Maintenant, nous passons à Léa avec un thème autour de l'agriculture et du bio.
Ouais, bravo la France, parce qu'en 2018, c'est un record, 10% des agriculteurs travaillent en bio depuis 2018. Et on est deuxième en Europe, ce qui est quand même pas mal, derrière l'Allemagne qui, elle, est évidemment toujours plus ou moins première sur les questions environnementales. Le troisième, c'est l'Italie. Moi, ça m'a un petit peu surprise. Après, je me suis dit que la France et l'Italie, c'est quand même deux pays où on aime bien manger, en règle générale, où la gastronomie est assez importante. France, on est bien positionné. D'ailleurs, plus de la moitié des achats bio se font en France ou en Allemagne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe réellement. Le bio, c'est aussi 14% de l'emploi agricole. Donc le bio crée des emplois, c'est important de le dire. Il y a aussi de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle qui se dirigent vers le bio et de plus en plus d'agriculteurs qui vont vers le bio, qui changent leur façon de faire. Donc ça fait plaisir de voir des chiffres et des bons chiffres et de voir qu'on avance pas mal par rapport aux autres pays européens. Pour une fois, la Suède est derrière. Donc ça fait plutôt plaisir.
La région Occitanie est d'ailleurs la première région bio de France.
Et il y a pas mal d'objectifs niveau environnement dans la région ici. C'est quelque chose qu'on peut voir avec le vin aussi, parce que 12% du vignoble français est bio maintenant.
Et oui, mais donc justement... C'est justement ce qui donne au poids de l'agriculture de l'Occitanie ce fort impact sur la conversion bio.
Et puis pour rester dans la région, là, il y a pas longtemps, on avait des journées spéciales bio dans les cantines, les restaurations collectives, et maintenant c'est 20% de produits bio dans les restaurations collectives. Donc bravo tout le monde.
Ouais, après là-dessus, ouais, c'est autant les agriculteurs que les consommateurs, de toute façon. Oui. Si les consommateurs commencent à réclamer plus de bio, achètent plus de bio, les agriculteurs vont forcément s'y mettre aussi.
Après, effectivement, les médias ont aussi pas mal...
T'as pas l'air d'accord, Léa.
Si. C'est les consommateurs qui dirigent le mouvement.
Non, après, ce qui est justement, enfin, ce qui est peut-être aussi important dans cette relation entre les consommateurs, leurs attentes et la production, c'est de continuer à être dans la logique même du bio. Et il y a eu pas mal de critiques autour de ce sujet-là ces dernières semaines, notamment sur le fait d'imaginer qu'on puisse produire demain de la tomate sous serre, bio, certes, mais avec une serre chauffée au fioul, etc., pendant des saisons où on n'est pas censé trouver de tomates. Enfin, voilà.
Ouais,
donc,
ouais.
C'est aussi... il y a la norme bio, et puis il y a l'esprit dans lequel... les produits sont faits, enfin voilà.
Il y a des produits bio qui voyagent pendant 3-4 jours.
Voilà.
Est-ce qu'on peut encore appeler ça des produits bio? Bon.
Voilà.
Ça, tout l'intérêt de manger les fruits de saison.
Voilà. Et du local. Et forcément, du local et de saison, c'est effectivement important. Alors moi, je vais rester dans la thématique un peu environnementale, mais alors sur un aspect numérique. Il y a eu plusieurs trucs, mais bon, là, c'était rigolo. Notamment un article qui est intitulé 100 boîtes mail pro représentent 13 allers-retours Paris-New York sur un an. Ce qui est évoqué dans ces études, notamment une de Greenpeace, c'est la consommation que représente l'écosystème numérique en termes d'électricité et donc finalement de l'impact. En termes de CO2, l'écosystème numérique représenterait autour de 7% de la consommation mondiale d'électricité en 2017, avec une progression très forte puisqu'elle serait de 12% en 2020 et avec une croissance de 7% par an d'ici 2030. Une simple requête tapée dans le moteur de recherche Google produirait 0,2 g de CO2.
C'est pour ça qu'il faut prendre Ecosia. Planter des arbres.
Ou Lilo.
Voilà, ouais.
À noter également, et là c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui le dit, que les conséquences provoquées par l'envoi des mails est extrêmement coûteux, donc en émissions de CO2. L'envoi d'un simple courrier électronique dans lequel on accroche une pièce jointe consomme autant d'énergie qu'une ampoule allumée pendant 24 heures. Et donc voilà, le pire, c'est ce que je disais dans le titre de cet article, les emails professionnels issus des boîtes qu'on ne vide que rarement, de 100 salariés, correspondent à 13 allers-retours Paris-New York sur une année. Et donc l'ADEME livre quand même des bons comportements et des bonnes pratiques à adopter. C'est notamment d'utiliser lorsque...
Le pigeon voyageur.
Non. Lorsqu'il est, par exemple, plutôt pour qu'envoyer un très gros fichier par mail, il est recommandé d'utiliser des applications où on fait le transfert de fichiers, parce que comme le stockage est sur une durée limitée, en fait, et que le fichier est supprimé par la suite, en fait, ça évite de conserver sur des data centers des données inutiles. Pareil, de penser aussi rien qu'à mettre en basse définition le logo de sa signature de mail. Tout ça peut contribuer à faire baisser un petit peu notre impact carbone de nos activités numériques. Voilà.
Utiliser WeTransfer. Voilà.
C'est ça. C'est la fin de cette émission. On va réécouter la chanson qui a été coupée tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, en espérant que ça ne le refasse pas. On va rappeler évidemment donc le 16 juin 2019 la Tawara Tarn Water Race. Toutes les infos donc sur le site tarnwaterrace.com, c'est ça ?
.com et puis sur notre page Facebook.
Voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut venir voir passer la course ?
Alors, un moment fort de la manifestation, ça va être le départ. Donc à Saint-Enimi, le dimanche 16 à 8h, départ de l'ensemble des participants en même temps. Dans un esprit bol d'or, si vous connaissez un peu cette manifestation au Mans, où on a aligné les embarcations avec les concurrents un peu en retrait, et puis au départ, ils sautent tous sur leurs planches et ils s'en vont en peloton défier le Tarn. Et puis ensuite, on peut les voir, je vais plutôt vous inviter à aller dans les villages, traverser Saint-Chély-du-Tarn, la Malène, les Vignes, etc., etc., jusqu'à Compreignac.
Voilà. Il est possible de s'inscrire jusqu'à quel moment ?
L'avant-veille. Mais voilà. Le plus tôt possible, c'est mieux.
Donc rendez-vous sur le site internet tarnotorace.com pour les inscriptions. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. On rappelle qu'il y a des activités qui auront lieu autour. Il faut s'inscrire aussi pour la balade autour du thème sur les castors. Mais voilà, tout ça, on retrouve toutes les infos sur le site internet. Merci beaucoup Pierre Toussaint d'être venu dans notre émission aujourd'hui. Et donc, rendez-vous dans 15 jours pour la dernière de la saison et peut-être la dernière de l'Ose Actuali.
On sera tous en maillot de bain.
Moi, je n'avais pas signé pour ça, mais
non, mais
tu n'as
rien signé du tout. Donc,
Allez, rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, passez une très très bonne quinzaine. À bientôt.
À bientôt.
Bye.